Et au chapitre 3, nous nous rappelons que ce sont ses amis Shadrach, Meshach et Abednego qui sont persécutés parce qu'ils demeurent fidèles à la loi de Dieu en refusant de s'incliner devant une statue païenne. Au chapitre 4, Daniel apparaît à nouveau comme un homme d'âge moyen, appelé à interpréter un rêve pour un roi effrayé de ce qu'il avait vu. Et encore une fois, nous retrouvons Daniel en train de servir tout en demeurant toujours fidèle à Dieu. Au chapitre 5, ce que nous avons vu la semaine dernière, eh bien, Daniel est toujours fidèle à Dieu, en train de le servir, en train d'interpréter un rêve d'un autre roi du nom de Belthazar. Et dans le chapitre que nous allons examiner ce matin, eh bien, nous retrouvons à nouveau Daniel, maintenant âgé d'un peu plus de 80 ans. Et même s'il est à Babylone depuis environ 70 ans, il a toujours la même foi qu'il avait alors qu'il était encore un tout jeune homme. Quand on lit le texte, il sert toujours fidèlement le Seigneur, le même Dieu qui, dans sa grâce, a toujours veillé sur lui. Et Daniel n'a jamais fait beaucoup de bruit à Babylone. Bien qu'il ait reçu différentes promotions au fil des ans au sein du gouvernement, qui l'ont amené à assumer le poste de premier ministre, les Juifs étaient toujours, malgré tout, maintenus en captivité. Et au chapitre 6, nous sommes en présence d'un nouveau roi, pour ceux qui ont leur Bible, le roi Darius, probablement aussi appelé Cyrus, qui autorise les Juifs à retourner en Israël pour reconstruire le temple. Chose étonnante, la grande majorité des exilés choisissent de rester à Babylone, s'étant adoptés aux coutumes et au style des vies de la vie des Babyloniens. Après avoir, durant toutes ces années, subi l'influence du peuple de Dieu, les Babyloniens n'avaient pas changé. Ils étaient toujours aussi idolâtres, cruels et méchants. Il n'y a pas eu de grand réveil à Babylone pendant tout le temps que Daniel s'y trouvait. Il semble que peu de gens ont vraiment été impressionnés par Daniel et par sa façon de se comporter fidèlement pour le Seigneur. Il semble que le simple fait d'être demeuré fidèle à Dieu l'a amené à s'attirer la jalousie de son entourage, la haine des méchants, vivre un complot contre sa vie et être condamné à mort. Et malgré tout, envers et contre tous, Daniel va persévérer dans sa foi. Il va rester fidèle malgré les changements qui se déroulaient autour de lui. Et même si Daniel demeurait fidèle, il ne sera pas épargné. Et je pense que c'est une première leçon qu'on doit retenir ce matin. Plus vous êtes fidèle à Dieu, moins vous allez être épargné par le diable. Dites amen à ça. Et c'est ce qui vous permet de voir que vous êtes toujours finalement dans la manière de vivre que Dieu demande. Frères et sœurs, la persécution pour un chrétien, c'est une promesse que Jésus a faite. C'est une promesse que Paul aussi a donnée en parlant à Timothée. Tous ceux qui veulent vivre comme Dieu le demande seront persécutés. On ne demande pas le soir avant de se coucher que le lendemain matin, le Seigneur puisse placer des gens sur notre chemin pour qu'on soit persécutés, mais simplement par notre façon de penser, simplement par notre façon d'agir, simplement par nos paroles. Les gens sont placés devant un miroir et les gens, eh bien, orgueilleux, dans leur orgueil, les gens n'accepteront pas ce que nous leur disons, même si nous parlons avec des petits mots très, très doucement, ça passe pas parce que c'est une autre nature, ils servent un autre père que le nôtre et on va être persécuté ou sans être persécuté, on sera rejeté, qui est une forme aussi de persécution. Même si Daniel demeure fidèle, eh bien, au chapitre 6, il va se retrouver dans une terrible situation à cause de sa foi. Il est condamné à être jeté dans la fosse aux lions parce qu'il était demeuré fidèle à son Dieu. Bien que Daniel faisait face à une terrible situation, il va tenir fermement à tout ce qui fait de lui un grand homme. Daniel a su garder une foi intacte. Examinons ce passage qui nous parle encore une fois de quelqu'un qui a su garder la foi, peu importe les situations difficiles qu'il a été appelé à vivre. Le chapitre 6 nous montre qu'il est possible de demeurer. On ne gardera pas les 10 premiers versets, les 9 premiers versets, puisqu'on l'a vu la semaine dernière, mais je vais résumer rapidement. Le chapitre 6 nous montre qu'il est possible de demeurer fidèle à Dieu malgré l'opposition des gens autour de vous. Remarquez certains détails de la vie de Daniel qui nous enseigne de grandes vérités sur ce héros de la foi. On a vu la dernière fois que le roi Darius venait d'accéder au trône et avait décidé de nommer 120 administrateurs afin de placer tout l'empire des hommes représentant son autorité. Il va nommer également 3 surintendants à qui ses 120 administrateurs devaient rendre compte de leur administration, de manière à ce que personne ne puisse nuire aux intérêts du roi. Daniel était l'un des 3 surintendants. Et non seulement il était un des 3 surintendants, mais il surpassait tout le monde, y compris les 2 surintendants qui étaient avec lui. Il les surpassait par ses capacités exceptionnelles. Si bien que l'empereur avait l'intention de lui confier une responsabilité relative à l'Empire tout entier. J'ai comparé la situation de Daniel un peu à la situation de Joseph dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire être presque l'égal de l'empereur. Et les adversaires de Daniel essayent de trouver des choses pour lui reprocher, mais ils n'en trouvent pas. Ils vont tous se liguer contre lui, en versets 5 à 7, et trouver quelque chose pour le coincer en relation avec la loi de Dieu. Et proposer au roi de publier un décret dans lequel il serait mentionné que pendant 30 jours, tout homme qui adressera une prière à un dieu ou à un être humain, autre que le roi, devait être jeté dans la fosse aux lions. Flatté, bien sûr flatté, puisque c'était le roi qu'on adorait. Flatté, le roi Darius va signer ce décret à 2 mains. Versets 10 à 11. Là, on rentre dans le texte pour nous ce matin. Versets 10 à 11. Là-dessus, l'empereur Darius signa le décret. Lorsque Daniel apprit qu'un tel décret avait été signé, il regagna sa maison. À l'étage supérieur, il ouvrit les fenêtres orientées vers Jérusalem. C'est là que 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il le fit comme d'habitude. Et lorsque le roi va signer ce décret, Daniel sera confronté à faire un choix. Devait-il rester fidèle au Seigneur ou devait-il s'incliner devant la vanité du roi? En regardant Daniel faire face à cette crise, vous avez l'impression que ce n'était pas du tout une crise pour lui. Daniel va tout simplement faire tout ce qu'il avait fait. Il va rester fidèle au Seigneur. Et remarquez comment Daniel va relever le défi qui se trouvait devant lui et les choix qu'il va faire. Premièrement, il va choisir d'obéir à Dieu plutôt que de saisir les opportunités que lui offrait le monde. Daniel n'avait pas ouvert les fenêtres de sa maison pour attirer l'attention sur lui-même au moment où il priait. Les fenêtres étaient déjà, il va les ouvrir en entrant dans sa chambre. Et tout ce que Daniel a fait, c'est de se prosterner devant le Seigneur et prier. C'est une deuxième bonne leçon pour nous, frères et sœurs, à retenir ce matin. Quand on vit des moments de crise, qui seront sûrement pas aussi intenses que celles que Daniel a vécues, la première chose à faire, c'est se mettre à genoux, prier, remettre notre corps entre les mains du Seigneur. Vous dites amen ce matin? Vous savez ce qu'on a fait comme introduction au chapitre 6 la semaine passée? On a dit que notre monde ressemble étrangement à celui que Daniel a vécu, un monde séculier, un monde laïque, un monde païen. Et quand on regarde la grande majorité des Juifs qui, au fil des années, des 70 ans, se sont adaptés à la culture, aux coutumes des Babyloniens, au point de ne pas vouloir quitter Babylone pour retourner en Israël, on s'est posé la question, mais comment Daniel, lui, a-t-il pu persévérer? Je vais probablement le dire un peu plus loin, mais si jamais je saute le paragraphe, Daniel, ce qu'il a sauvé, ce qui lui a permis de rester fidèle à Dieu, c'est sa vie de prière et la méditation de la parole de Dieu. Sinon, il aurait été englobé comme tous les autres Israélites, dans la coutume et dans la façon de vivre des Babyloniens. Et frères et sœurs, c'est un avertissement important pour nous, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend en avant, mais on a besoin d'être solidement planté, implanté dans la parole de Dieu, parce que dans 1 Thessaloniciens, chapitre, je pense c'est le 5, Paul dit que Dieu, dans les derniers temps, va envoyer une puissance d'égarement. Une puissance d'égarement, ce sera le jugement de Dieu, pour que les gens ne se convertissent pas. Frères et sœurs, c'est sérieux, ça. Mais la déchéance sera tellement totale, ça sera tellement épouvantable, que ça fera partie du jugement de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes sous la grâce. Nous avons accès à la Bible comme nous voulons. Nous vivons dans un monde qui est rebelle à l'autorité de Dieu. Un monde qui rejette carrément Dieu. Chez nous, je suis un peu les nouvelles du Québec, disons à chaque jour, une dizaine de minutes sur Internet, sur Google Actualité. Et là, c'est la grosse bagarre au Québec, c'est de sortir le crucifix de l'Assemblée générale, c'est de sortir le crucifix de la mairie de Montréal. Et ça, c'est la grosse bagarre au Québec pour l'instant. On est vraiment dans un monde laïque, un monde qui rejette carrément Dieu. Vous imaginez la perte de temps des députés pour voir si on va voter, si on va remporter le vote pour sortir les crucifix dans le Parlement québécois, qui est là depuis sa fondation. Il dérange vraiment le crucifix. Il n'est pas aussi grand que celui-là, en plus. Il est très discret. Il est en haut, dans le fond, dans le coin des murs, en plein centre du mur. Et Mais on en est rendu là, quoi. Tout ce qui fait référence au christianisme, on est en train d'être balancé. Et on a besoin d'éduquer nos enfants dans les voies du Seigneur. Et éduquer les enfants dans les voies du Seigneur, c'est pas juste de leur lire la parole à chaque soir. C'est ce qu'on lit comme parole, comme texte le soir, on doit leur partager. Qu'est-ce que ça veut dire, ce texte-là, pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? C'est important pour que ça s'incruse dans son cœur. Sinon, enseigne ton enfant dans les voies de Dieu, il s'en détournera pas quand il sera grand. On verra pas ça se concrétiser. Enseigner, c'est enseigner, hein. C'est pas juste lire la parole. Lire, c'est en surface, hein. Mais enseigner, tu partages un texte, une histoire, essaie de trouver la leçon. Quelle est la morale à cette histoire pour qu'il la retienne? Et quand il sera grand, eh bien, si cette même histoire, cette histoire semblable, qu'il la vit dans sa vie, eh bien, il sera capable de se rappeler ce que sa maman, ce que son papa lui auront enseigné. D'abord, alors, le défi qui se trouvait devant lui, les choix qu'il a fait, Daniel, eh bien, a choisi d'obéir à Dieu plutôt que de saisir les opportunités que lui offrait le monde. Ça, c'est le premier choix qu'il a fait. Deuxième choix, il a choisi de demeurer fidèle à Dieu plutôt que de chercher à obtenir la faveur du roi. Le décret du roi Darius ne va rien changer dans les habitudes de Daniel. Il s'est simplement agenouillé devant le Seigneur et il a continué à prier trois fois par jour et les cinq derniers mots de ce verset-là, comme il le faisait auparavant. Frères et sœurs, quand on vit un moment de crise, est-ce qu'on change nos habitudes de vie chrétienne ou si on continue à faire ce que nous faisions auparavant? Il est demeuré fidèle à Dieu malgré un décret royal qui lui demandait de faire le contraire et la menace qui pesait sur lui s'il désobéissait à ce décret. Troisième choix qu'il va faire, il va choisir de demeurer attaché à Dieu plutôt que d'obéir au décret du roi qui n'était pourtant que de 30 jours. La séduction, elle était là, c'était pas à vie. C'était 30 jours. Ses ennemis savaient très bien qu'il avait une vie de prière intense. Ils savaient très bien qu'il méditait les Écritures. Il pouvait pas le compromettre sur la vie civile, les lois civiles de la Babylone. Mais par contre, à partir de ce qu'il vivait, en fonction de son Dieu, là, ils étaient capables de le coincer. C'est pour ça qu'ils vont faire voter ce décret-là. Et ils connaissaient très bien Daniel. Ils savaient bien que Daniel ne s'arrêterait pas de prier son Dieu. Qu'il n'abandonnerait pas ses habitudes de foi chrétienne. Et c'est là-dessus qu'ils vont aller chercher. Mais ce qu'ils savent pas, et j'espère que vous allez vous en rappeler aussi, c'est que peu importe ce que vos ennemis peuvent planifier, Dieu est au-dessus de toute chose. Dieu entend. Dieu voit toute chose. Et si vous laissez à Dieu l'autorité de régler vos problèmes, il va les régler. Si vous essayez de prendre autorité pour régler vos problèmes, eh bien, vous allez vous embourber. Parce que vous enlevez l'autorité à Dieu d'agir dans votre vie. Et Daniel ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. On n'a pas la prière de Daniel ici, mais il va prier. Et je pense qu'en bon chrétien, bien, il va dire, Seigneur, tu connais maintenant ce que complotent mes ennemis. Tu vois ce qu'ils ont fait, Seigneur. Seigneur, je m'en remets à toi parce que tu m'as toujours sorti les pires choses qui me sont arrivées dans ma vie. Seigneur, je m'en remets à toi. Tu connais déjà la solution, Seigneur, je te fais confiance. Et en aucun endroit, on peut lire le texte, le chapitre 6, en aucun endroit, Daniel va paniquer. En aucun endroit, Daniel va montrer que ça l'a dérangé. Tellement qu'il a placé sa foi en Dieu. Et le texte ce matin, c'est ce à quoi il nous appelle. Des fois, le Seigneur va provoquer des situations dans votre vie, dans la mienne, qui nous échappent, qu'on est incapable de contrôler, simplement pour nous apprendre à lui faire encore plus confiance, à lui faire davantage confiance, parce qu'il a déjà la solution. Amen. Quatrième choix, il a choisi de se prosterner devant Dieu plutôt que de se prosterner devant ses ennemis, devant le roi. Les ennemis de Daniel, verset 4, cherchaient un moyen de le faire accuser, ils cherchaient. Et j'imagine qu'il l'aurait laissé tranquille si Daniel avait adopté les coutumes et la religion en vogue à Babylone. Mais Daniel va refuser de se plier à leurs désirs. Cinquième choix qu'il va faire, il va choisir de montrer qu'il agissait en fonction de ce qu'il croyait plutôt que d'accepter les trésors impérissables que le monde lui offrait. Face à ça, combien de fois il est tentant pour nous de faire des compromis pour ce que le monde nous offre. Et on oublie à ce moment-là que si on n'est pas fidèle à Dieu, eh bien, il y a des promesses de Dieu qui ne peuvent pas se réaliser tant et si longtemps qu'on ne revient pas au pied de la croix pour confesser nos péchés, pour confesser ce compromis. Pour Daniel, la prière était beaucoup plus importante que de gagner un concours de popularité. Il préférait demeurer fidèle à Dieu plutôt que de s'enrichir en obtenant une promotion si cela devait le pousser à faire un compromis dans sa foi. Sixième choix de Daniel, Il a choisi de ne pas changer ses habitudes plutôt que de faire comme tout le monde. Pensez un instant aux excuses que Daniel aurait pu trouver pour ne pas prier. Frères et sœurs, il avait plus de 80 ans. Et il y a un dicton qui dit, je sais pas d'où il vient, mais que les bonnes habitudes se prennent tôt dans la vie. Vous êtes amen à ça. Hein? Un paresseux, ça peut rester un paresseux très longtemps. Et quelqu'un qui travaille, il peut travailler très, très longtemps. Et c'est dans le domaine. Hein? On dit ça ici que non, les bonnes habitudes se prennent tôt. Merci, Ernest. Ernest, c'est vraiment une encyclopédie à deux pattes. Merci, Ernest. Je suis sûr que Daniel, à 80 ans, en tout cas, je vous ai dit la semaine passée qu'on se situe entre 80 et 90 ans, les commentateurs se situent entre les deux, je suis sûr qu'il était fatigué. Je suis sûr qu'il était épuisé aussi. Il était encore le premier ministre de Babylone et il devait être fort occupé. Cependant, Daniel n'a pas cherché à trouver des excuses. Il est resté fidèle au Seigneur et il a agi en fonction de ce qu'il savait être juste. Imaginez, frères et sœurs, on va faire un petit calcul ensemble. Imaginez. Je vais vous dire pourquoi les bonnes habitudes qu'on développe jeunes, tôt ou tard, ils nous rapportent. Il priait 3 fois par jour depuis environ 80 ans. Cela fait 365 fois, 3 fois, pendant 80 ans. Ceux qui sont bons en calcul, hein? 3 fois par jour. 365 jours dans une année, 3 fois 365. On ajoute encore un peu une difficulté, fois 80, plus que 80 ans. Daniel, quand il a vu, Daniel, vous savez, quand il a eu l'épreuve, il n'a pas dit, mais il laisserait peut-être temps que je commence à prier, parce que j'ai pas de solution. Quand Daniel s'est présenté à genoux, il avait déjà prié plus ou moins 86 300 fois dans sa vie. 86 300 fois à peu près dans sa vie. C'était pas qu'il paniquait, qu'il s'est jeté à genoux. C'était tout à fait naturel pour lui de se mettre à genoux. Et de s'en remettre entre les mains de Dieu. Après avoir prié plus de 86 300 fois dans sa vie, il n'était pas question pour lui de paniquer. Parce qu'à travers ces 86 300 fois qu'il avait prié, dans tout ça, Dieu lui a toujours répondu à ses prières. Et à chaque fois qu'il priait, quand il se relevait sur ses jambes, il en sortait fortifié, il en sortait grandi, parce qu'il savait qu'il servait un Dieu vivant. Et c'est ce que l'empereur va souligner en plus quand il va sortir de la fosse aux lions. L'empereur Darius, qui était considéré comme un dieu, va confirmer que le Dieu de Daniel, c'était le Dieu vivant. Il va faire une prière, de louange extraordinaire, on va la lire ensemble en terminant. Frères et sœurs, si on ne prie jamais, et que dans un moment de crise, on commence à prier, premièrement, on ne saura même pas quoi dire à Dieu, on ne saura même pas comment se présenter devant lui, on va être perdu dans nos prières. La prière, c'est un exercice qui se développe à travers la lecture de la parole. On a vu tantôt à travers un Chronique 16, la prière de louange qui est dans tout ça. On ne l'a pas lu au complet parce qu'elle est très, très longue, mais la prière de louange, c'est quelqu'un qui vit des moments de louange à chaque jour avec son Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous pour nous fortifier dans notre foi et nous faire grandir, faire en sorte que notre foi s'affermisse par rapport aux persécutions, par rapport aux rejets qu'on peut vivre, que ce soit dans nos familles, que ce soit au travail, peu importe où ça peut être, mais c'est ce que Dieu veut faire. Dieu, c'est pas qu'il prend plaisir juste à dire, bon, mais enfin, il s'est agenouillé. Enfin, j'ai réussi à l'humilier. C'est pas ça, la prière. Voilà mon enfant qui vient prendre le rendez-vous fixé pour lui tous les jours devant son Dieu. Et Daniel, 3 fois par jour, prenait ce rendez-vous. Peu importe ce qui arrivait dans sa vie, il était impossible de lui faire manquer 3 fois de prier par jour. Frères et sœurs, à une époque où on a des GPS ou à l'époque où on a des GSM, c'est difficile pour nous de consacrer 1 heure par jour de prière ou une fois par jour. Et on devrait se discipliner pour laisser nos GSM un endroit où on n'est pas dérangé par la sonnette, la sonnerie du téléphone, quand on est en train de prendre un temps dans la parole, en train de méditer ou en train de prier. Tu t'emmènes à ça? après avoir prié 86 300 fois, Daniel ne pouvait pas abandonner ce qui avait fait sa force tout au long de sa vie, la prière et l'étude de la parole. Septième choix qu'il a fait, il a préféré demeurer fidèle à Dieu plutôt que d'obéir à sa chair. Daniel était prêt à renoncer à sa position, il était prêt à renoncer à tous ses biens, à sa position d'autorité, mais il n'était pas disposé à abandonner l'engagement qu'il avait pris avec son Seigneur. Ça comptait par-dessus tout pour lui. Huitième choix, il a choisi de montrer qu'il aimait Dieu plus que le monde. Il était prêt à sacrifier sa vie parce qu'il aimait plus son Seigneur qu'il ne s'aimait lui-même. Combien parmi nous seraient prêts à sacrifier leur vie en 2019 pour le Seigneur, pour la défense de la foi? Combien? Je vous juge pas, hein? Je suis en train de poser la question. Je me la pose aussi à moi. Neuvième choix qu'il a fait, il a choisi de ne pas renier sa foi plutôt que d'accepter de vivre comme le monde pour éviter les ennuis. Daniel était prêt à mourir d'une mort horrible dans la fosse aux lions plutôt que de renier sa foi en Dieu. Il était déterminé à défendre ce qui était juste simplement parce que c'était juste. Il était déterminé à se tenir debout pour le Seigneur, quelles qu'en soient les conséquences. Il était déterminé à rester fidèle à Dieu, peu importe le prix à payer pour Daniel, et le prix que Daniel devra payer est énormément élevé, c'est sa vie. Quand on lui dit qu'on va l'acheter dans la fosse aux lions, il n'y a rien dans le texte qui nous dit que Dieu va l'épargner. Rien. Daniel, il ne connaît pas l'avenir par rapport à la fosse aux lions, à la sentence qu'on lui a imposée. Mais il fait confiance à son Dieu. Qu'il soit dévoré par les lions, ou qu'il sorte des lions, il en sort gagnant. C'est un croyant. C'est un fervent croyant. Il en sortira gagnant. Ne croyez-vous pas que l'Église, frères et sœurs, serait un endroit très différent aujourd'hui si ses membres prenaient le même engagement que Daniel envers Dieu? Nous permettons à tout le monde de s'interposer entre nous et notre fidélité au Seigneur. On n'a pas à s'étonner que l'Église manque de chaleur. On n'a pas à s'étonner de voir des choses du monde survenir dans nos propres églises. Les études bibliques, les réunions de prière, même les réunions du dimanche matin sont devenues des activités facultatives pour les membres de l'Église moderne. La plupart des chrétiens ne prient pas comme ils le devraient. Ils ne lisent pas leur Bible régulièrement, ils ne témoignent pas. Combien de chrétiens sont prêts à sacrifier leur témoignage et leur engagement envers le Seigneur sur l'autel de la commodité, du plaisir et de l'ambition matérielle? Que le Seigneur puisse susciter des Daniels à notre époque. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui ne veulent rien de moins que d'obéir à ce que Dieu demande pour la vie, pour leur vie. Le fait est que nous abandonnons et que nous capitulons beaucoup trop facilement. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes, on peut remettre le volume, que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui ne veulent rien de moins que d'obéir à ce que Dieu demande pour leur vie. Si nos ennemis s'acharnaient sur nous comme ils l'ont fait avec Daniel, j'ai bien peur que nous céderions à leurs caprices et qu'ils ne trouveraient que peu de choses solides à attaquer dans nos vies concernant notre foi en Dieu. Où sont les chrétiens fidèles qui préféreraient mourir que de déshonorer leur Seigneur? Où sont les croyants dévoués et engagés qui sont déterminés à demeurer fidèles à Dieu au prix de leur vie? Que feriez-vous si vous étiez confronté au même dilemme que Daniel ce matin? Qu'est-ce que je ferais? C'est une question que je me pose aussi. Les versets 12 à 17, le défi de Daniel, il faisait face à une accusation personnelle, c'est ce que les versets 12 à 15 nous donnent. Lorsque les ennemis de Daniel vont le voir s'agenouiller et prier le Seigneur, ils vont se rendre devant le roi pour l'accuser. Ils vont insister auprès du roi pour qu'il respecte la loi du pays. Si les ennemis de Daniel avaient raison, celui-ci était coupable d'avoir enfreint la loi stupide qu'il avait fait voter. Même le roi va reconnaître jusqu'à quel point il avait agi sottement. Il regrettait d'avoir signé ce décret, et il va chercher de toutes ses forces, pendant toute la journée, un moyen pour délivrer Daniel de la mort, mais il n'a pu en trouver aucun, nous dit le texte ici. Je pense que c'est le verset 15. Excusez-moi, il y a un décalage aussi dans les versets, encore une fois. Le fait que Daniel avait désobéi à la loi du roi, Le fait est que Daniel avait désobéi à la loi du roi, mais il n'avait pas désobéi à la loi du Seigneur. Il avait fait ce que le Seigneur lui ordonnait, et ce même quand cela contredisait les exigences du gouvernement. Frères et sœurs, est-ce qu'il est possible pour un chrétien de désobéir au gouvernement? Est-ce qu'on peut se permettre de désobéir au gouvernement? Et là, j'ai mon micro ouvert et je vais vous dire oui. Acte chapitre 5, verset 19, si ma mémoire est bonne. 5, 29 à 31. Le Seigneur nous permet de désobéir aux autorités uniquement pour annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ce que les apôtres vont répondre aux autorités religieuses de leur époque. Dans une autre version, il est écrit « Voyez si nous devons plaire aux hommes ou de plaire à Dieu, obéir aux hommes ou obéir à Dieu. » Je ne dirai pas qui, il y a une personne qui vient une fois de temps en temps ici, elle fait partie d'un groupe de 10 personnes. J'en ai parlé au cours de base, je pense, lundi passé. Ils sont descendus dans le centre-ville de Liège, ils ont annoncé l'Évangile clair et net. Ils ont été arrêtés, on a voulu les intimider, ils ont été arrêtés. Ça a passé dans la Meuse, mais on n'a pas été capable de porter d'accusation. Qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal? Déranger la bonne atmosphère publique? Non? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 13, nous enseigne à obéir aux dirigeants du pays et à leurs lois, mais lorsque leurs lois contredisent la loi de Dieu, nous devons obéir à Dieu, quelles qu'en soient les conséquences. On n'a jamais demandé un permis pour faire mission vacances. Si les autorités nous refusent, qu'est-ce qu'on fait? On plie bagages et on fait rien? On m'a testé deux fois. Et on n'a pu rien faire. Je dis toujours la même question aux policiers. Est-ce que vous pouvez m'empêcher de faire ce que je fais? Il me dit non, tant qu'il n'y a pas de prix décrit sur votre flyer, on ne peut rien faire. Merci. C'est gentil de me rappeler qu'on ne doit pas jamais mettre de prix sur les flyers. Et pourquoi on ne doit pas mettre de prix sur les flyers? Pourquoi on est coincé si on met un prix sur un flyer? Parce que le gouvernement veut toucher la TVA. Enfin, c'est ça, il y a toutes sortes de moyens de nous intimider, mais quand on lit la parole, il n'y a personne, aucune autorité qui peut nous empêcher d'annoncer l'Évangile, de désobéir à Dieu pour annoncer l'Évangile. Est-ce qu'on est prêt aussi à payer ce prix-là en 2019, nous, l'Église de Jésus-Christ? Écoutez la suite de la... Regardez la suite de la réponse des apôtres. Je ne l'ai pas lu, mais je vais le lire ici. Regardez pourquoi ils pouvaient se permettre de parler. Ils disent, « Le Dieu de nos ancêtres a rendu la vie à ce Jésus que vous avez fait mourir en le clouant sur une croix. Dieu l'a élevé à sa droite et l'a établi comme chef et sauveur pour donner l'occasion au peuple d'Israël et par extension, c'est-à-dire Matthieu 28, 20, par extension, eh bien, et Dieu veut que tous ceux qui se repentissent, eh bien, puissent entendre l'Évangile et recevoir le pardon de ses péchés. Hein, 29 à 31. Frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle qu'on annonce. On n'est pas dans la rue pour dire, écoutez, rebellez-vous contre les autorités. Sortez les haches, sortez les fusils, sortez les pelles. On est simplement en train d'annoncer une bonne nouvelle qui, finalement, si tout le monde l'acceptait, mettrait fin à toute la misère qu'il y a dans le monde. Mais ça dérange certaines personnes. Ça dérange surtout ceux qui sont corrompus. Je parle tout le monde, hein? Le pécheur en général, quoi. Et ça dérange. Frères et sœurs, on n'est pas dans le royaume de Dieu sur la terre, on est dans le royaume d'une autre personne, d'un autre personnage, d'un esprit malin qui vise à démolir, à détruire, à empêcher les gens d'entendre la bonne nouvelle. Frères et sœurs, les versets 16 à 17 nous montrent que Daniel faisait face à une puissante attaque de la part de ses adversaires. Il est écrit que le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Et tout le monde était certain que Daniel était un homme mort. On n'avait jamais vu quelqu'un entrer dans la fosse aux lions et en ressortir vivant. Les lions se moquaient de savoir si leur victime était un prédicateur ou un païen. Ils broyaient les os de tous ceux qui étaient jetés au milieu d'eux. D'ailleurs, ils avaient été élevés pour cette tâche. Ils étaient gardés à moitié affamés pour pouvoir attaquer et tuer tous ceux qui seraient jetés dans leur tanière. Aux yeux de tous, Daniel était un homme mort. Le verset 17 indique que le roi avait confiance en Daniel et en son Dieu. C'est extraordinaire, ça. Il croyait que le Dieu de Daniel, que Daniel servait, prendrait soin de lui. Il dit à Daniel, « Seul ton Dieu que tu sers avec persévérance pourra te sauver ou pourra te délivrer. » Quel témoignage Daniel devait avoir auprès du roi? Quel témoignage! Même si c'était un chrétien, le roi savait qu'il ne pouvait pas se passer de Daniel pour gérer son royaume. Nous devrions vivre un style de vie qui interpelle les gens qui vivent autour de nous. Que ce soit un roi païen ou simplement notre prochain, notre foi devrait sonner vraie et les dirigeants et les diriger vers le Seigneur. Peu importe qu'ils croient en notre Seigneur ou non, ils devraient savoir que nous, nous croyons et ils devraient être en mesure de voir sa main agir dans nos vies. Verset 18 à 28, regardez la victoire de Daniel. Lorsque Daniel est jeté dans la fosse aux lions, Darius retourne dans son palais. Là, entouré de ses richesses, de ses serviteurs et de ses parures, il est incapable de trouver le sommeil, espérant que Daniel s'en sorte. Et je suis convaincu qu'il se sentait profondément coupable d'avoir promulgué un tel décret. Il est sans doute en colère aussi contre ceux qui ont monté ce complot pour détruire Daniel. Il lutte avec le sommeil jusqu'au lever du jour, puis il se rend à la fosse aux lions pour aller voir Daniel. C'est ce que le texte biblique nous dit ici. Et avec une voix tremblante de peur, il appelle Daniel, espérant malgré tout qu'il avait réussi à survivre à cette terrible nuit. Regardez versets 21-23. Daniel répond au roi et raconte la glorieuse nouvelle que Dieu est intervenu pour le sauver en envoyant son ange. L'ange a fermé la gueule des lions, les empêchant qu'ils soient assez attaqués, dit Daniel. Et Daniel reconnaît qu'il a pu bénéficier de la protection gracieuse parce que Dieu n'était pas obligé d'être protégé. Il reconnaît que c'est par la grâce de Dieu qu'il a été protégé. Ça, c'était la vie chrétienne, c'était la vie de foi qu'avait Daniel. Seigneur, je sais que ta grâce ne me fera jamais défaut. Et la grâce, on n'en parle pas juste à partir du Nouveau Testament, on en parle aussi dans l'Ancien. Adam a goûté à la grâce de Dieu. David a goûté à la grâce de Dieu. Beaucoup ont goûté dans la grâce. Ils ont tous goûté à la grâce de Dieu, ceux qui ont été rétablis. Et ici, on voit le roi avec une voix tremblante qui s'approche. Et Daniel, il dit, écoute, ne t'inquiète pas, mon roi. Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions. Son ange, On peut penser que c'est Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. L'ange de Jésus-Christ avant d'être incarné. On n'en fera pas un dogme, Mais voilà. Rempli de joie, le roi donne l'ordre de faire sortir immédiatement Daniel de la fosse aux lions. Et dès qu'il fut sorti, on le constata qu'il ne portait aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Son Dieu l'avait protégé. Un miracle incroyable, voire apparemment impossible. Et dans 1 Chronique 16, au tout début du culte, pour préparer le moment de louange, on a dit c'est notre Dieu qui est capable d'accomplir l'impossible. Et l'impossible venait de se réaliser dans la vie de Daniel. Daniel, avec l'aide surnaturelle de Dieu, avait survécu à la fosse aux lions. Dieu avait envoyé son ange fermer la gueule des lions. Verset 24. Le roi avait ordonné qu'on fasse arrêter les hommes qu'il avait accusés faussement Daniel et qu'on les jette dans la fosse aux lions avec leurs femmes et leurs enfants. Les lions les attaquèrent et leur brisèrent les os avant même qu'ils aient atteint le fond de la fosse. Ça peut paraître méchant d'envoyer les hommes et les enfants, mais souvent, on copie ce que nos parents sont. Et souvent, les enfants imitent finalement ce que les... Moi, c'est en tout cas, c'est l'explication que je vois. Je pense pas que Dieu, c'est un Dieu qui va prendre plaisir à tuer tout le monde pour rien. Je pense que Dieu aussi sait très bien que l'éducation du père ou le comportement du père va déteindre sur ses enfants et sur sa femme. Et finalement, il n'épargne personne. Verset 25 à 28, le roi Darius est dépassé par ce qui s'est passé ici. Il fait écrire un décret qui exalte le Seigneur Tout-Puissant. Il ordonna que dans toute l'étendue de son royaume, qu'on ait un respect absolu envers le Dieu de Daniel. On est en train de parler d'un roi païen. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement, dit-il. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera éternellement. C'est lui qui délivre et qui sauve. C'est lui qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Il reconnaît que c'est le Dieu de Daniel. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Quelle est la morale de cette terrible aventure vécue par Daniel? Frères et sœurs, Dieu honore toujours ceux qui sont fidèles. Vous dites amen à ça? Peu importe ce qui va en survenir de la situation, Dieu honore toujours ceux qui sont fidèles. Et parce que Daniel a été fidèle à Dieu, même face à la mort, Dieu était avec lui et il va le délivrer non seulement de ses ennemis, mais des décrets du roi et de la puissance du lion. Dieu lui donna la victoire sur le décret, sur la fosse au lion, sur Darius, sur les ténèbres, sur ses détracteurs et même sur lui-même. Il est possible que nous n'ayons jamais eu à faire face à une fosse au lion. Il est possible qu'on ne fera peut-être jamais face à une fosse au lion telle que Daniel l'a connue. Mais il est possible aussi que nous n'ayons jamais à faire face à la fournaise ardente comme Shadrach, Meshach et Abednego. Mais nous pourrions faire face à certaines épreuves que d'autres chrétiens ont été appelés à endurer avant nous. Nous pourrions faire face à la maladie prolongée, au chagrin, à la détresse, à la persécution, à la mort, et vivre des grands moments de terribles difficultés. Et dans tout cela, le Seigneur demande simplement que nous soyons fidèles et de compter sur sa fidélité. Il nous promet qu'il ne nous laissera jamais seuls. Il a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Jésus a dit, « Je suis avec vous. » Et le texte en français courant dit, « Sachez-le, je suis avec vous tous les jours. Sachez-le, je veux que vous le sachiez. Je veux que ça soit imprimé dans votre cœur. Sachez-le, je serai avec vous tous les jours et ce, jusqu'à la fin du monde. » Il nous a promis une grâce suffisante pour chaque pas que nous faisons. Il a dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. » Il a promis de guider chaque pas que nous faisons. Psaume 37, verset 23-24, « L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. » Amen. Il a promis de répondre à tous les besoins de la vie. Paul écrit que Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse avec gloire en Jésus-Christ, c'est-à-dire avec gloire, avec puissance. En Jésus-Christ. Et je ne lirai pas l'autre, il est tellement long. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. C'est pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas au sujet de votre vie, de ce que vous allez manger, de votre corps, ce que vous serez vêtu. Il donne la liste. Frères et sœurs, on a un Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Il a promis de nous entendre et de nous aider lorsque nous appelons son nom. Jérémie 33, 3, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Jean chapitre 16, verset 24, « Demandez en mon nom et vous recevrez afin que votre joie, et ainsi votre joie sera complète ou parfaite. » Philippiens 4, verset 6-7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'homme peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Il a promis de faire beaucoup plus pour nous, simplement parce qu'il nous aime et que nous sommes son peuple. C'est amen à ça. Nous sommes ses enfants, nous sommes son peuple. Tout ce qu'il nous demande, frères et sœurs, c'est d'être fidèles. Il y a une phrase que chaque enfant de Dieu va désirer entendre, en tout cas, entendre de la part du Seigneur lorsque son pèlerinage prendra fin. C'est « Bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Cette phrase prononcée par Jésus apparaît dans une parabole intitulée « La parabole des talents ». Dans cette parabole, trois serviteurs ont une tâche accomplie. Deux de ces serviteurs accomplissent la tâche qui leur est confiée et entendent leur maître leur dire « Bien joué ». Le troisième, qui ne parvient pas à accomplir la tâche, est traité avec dureté. Il perd sa récompense et il perd la faveur de son maître. Moi, je veux entendre le Seigneur me dire à la fin de ma vie « Bien joué ». Parce qu'il est le seul qui peut me dire si je lui étais fidèle ici-bas ou non. Écoutez encore une fois ce que j'aimerais l'entendre me dire. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et à l'étude biblique de mercredi, on en a parlé. Frères et sœurs, s'il y en a parmi vous ici ce matin qui pensent que quand ils vont arriver au ciel, quand Dieu va établir une nouvelle terre et un nouveau ciel, qu'on est condamné à passer l'éternité les bras croisés, eh bien, détrompez-vous. Dieu ne nous a pas tout révélé, mais il nous a dit que nous allions régner avec lui. Et pour régner avec lui, on ne régnera pas sur les néants, on ne régnera pas sur l'abîme, on va régner sur quelque chose, on va régner sur quelqu'un, mais on va régner. Et Dieu est en train de nous préparer. C'est pour ça qu'il nous demande de servir dans son Église, parce qu'on va être à son service pendant toute l'éternité. C'est pour ça qu'il nous demande de le louer dans son Église, de l'adorer dans son Église, parce que c'est ce qu'on nous sommes appelés aussi. Ça, c'est clair, c'est marqué dans l'Apocalypse. C'est ce que nous serons appelés à faire pour l'éternité. Amen. Dans ce passage, obtenir la faveur du Maître est la récompense que recevra l'enfant de Dieu pour avoir été fidèle. L'apôtre Paul écrit, « Tout ce que l'on demande à un homme chargé d'une responsabilité, c'est d'être fidèle. » 1 Corinthiens 4, 2. Frères et sœurs, il y a certaines choses personnellement que je ne peux pas faire. Je ne peux pas donner de grosses sommes d'argent pour l'œuvre du Seigneur. Je ne peux pas chanter et prêcher comme certains peuvent le faire. Je ne peux pas dire que j'ai tout laissé tomber pour servir le Seigneur. Je ne peux pas dire que j'ai donné entièrement ma vie par amour pour lui. Mais il y a certaines choses que je peux faire. Je peux être trouvé fidèle. Je peux être trouvé fidèle au Seigneur qui m'a racheté du péché. Je peux être trouvé fidèle pour accomplir la tâche à laquelle il m'a appelé. Je peux être trouvé fidèle pour prier. Je peux être trouvé fidèle pour lire sa parole. Je peux être trouvé fidèle pour rendre témoignage de son amour. Je peux être trouvé fidèle d'être venu régulièrement dans sa maison. Je peux être trouvé fidèle pour l'aimer. Je peux être trouvé fidèle aux choses qui comptent dans ma vie. Par exemple, ma famille, mes frères et sœurs en Christ et mes amis. Je ne peux pas être certaines choses, mais je peux être fidèle. Dieu ne m'a pas appelé à être une Ferrari, une Porsche ou une Mercedes. Il ne m'a pas appelé à être une voiture de course de Formule 1. Il m'a appelé à être une berline familiale, quelqu'un de sûr, fiable et stable. Il m'a appelé à être fidèle et à démarrer quand il tourne la clé, c'est-à-dire à la clé le matin, quand il me réveille, c'est-à-dire accomplir simplement le travail, la faire jour après jour. Il m'a appelé à être fidèle, comme Daniel. Frères et sœurs, en terminant, Daniel était quelqu'un sur qui vous pouviez compter. Et parce que Daniel était fidèle, non seulement le roi Darius a été sauvé par grâce et a reçu une nouvelle vie dans le Seigneur, c'est ce que Isaïe dit au chapitre 45, mais le roi Nebuchadnezzar a également été sauvé grâce au témoignage de Daniel et de ses amis. S'il n'y a pas eu de grand réveil à Babylone, deux rois ont quand même été sauvés et cela fait toute une différence. Daniel a fait une différence parce qu'il est demeuré fidèle à son Dieu. Si votre fidélité à Dieu ne touche qu'une seule vie, cela vaut la peine d'être trouvé quelqu'un de fidèle. Est-ce que quelqu'un connaît de quelle façon Dwayne Moody s'est converti? Dwayne Moody, c'était un enfant qui était rebelle à l'école du dimanche. Si on avait écouté notre chair, on ne s'en serait pas occupé. Il était rebelle. Il avait perdu son père très jeune. Il avait dû monter à Saint-Louis pour devenir vendeur de chaussures. Il avait dû abandonner l'école, vendeur de chaussures dans une boutique. Et il y avait un professeur d'école du dimanche qui se culpabilisait de ne pas être capable d'amener les enfants au Seigneur. Et une nuit, il est réveillé par le Seigneur qui dit, « Dwayne Moody dans l'arrière-boutique. » Il reçoit ça comme information dans l'arrière-boutique à chaussures où il travaille, à trier les chaussures. Il a parlé du Seigneur et Dwayne Moody était brisé. Un enfant rebelle. Il n'y en a pas amené au Seigneur une centaine, mais qui a marqué toute une génération. Dwayne Moody, c'est le précurseur de ce que Billy Graham a fait au 19e siècle. Frères et sœurs, vous ne savez jamais où va atterrir votre parole, la parole de Dieu quand vous la prophétiez. Vous ne savez jamais quel cœur elle peut toucher. Et l'impact qu'elle peut avoir, non seulement pour le jour où vous avez l'annoncé, mais peut-être pour toute une génération. Moi, je ne voudrais jamais, je ne veux pas condamner personne, j'espère que ça ne se passera jamais au ciel, mais que Dieu me montre toutes les occasions qu'il m'a données de pouvoir annoncer sa parole et que je me suis plutôt contenté de fermer ma bouche. J'ose espérer que ça ne se passera jamais quand je vais comparer devant lui. Si vos enfants grandissent pour devenir des berlines familiales fiables parce qu'ils sont fidèles pour la génération qui suit, votre fidélité aura été récompensée à plusieurs reprises. Si un autre chrétien se remet en question parce que vous êtes quelqu'un de fidèle et que cela le pousse à être de plus en plus fidèle au Seigneur, d'abandonner sa religiosité chrétienne, votre fidélité en aura valu la peine, frères et sœurs. Dieu honore toujours celui qui est fidèle. Il est possible qu'il ne vous permette pas d'obtenir une seule promotion aux yeux des hommes, mais le Seigneur voit tout ce que vous faites. Il en garde une trace parfaite et un jour, vous serez récompensé en conséquence. Écoutez, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses que j'accorderai à chacun selon ce qu'il aura fait. Apocalypse 22, 12. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui passionne l'âme dans le fait de servir le Seigneur et de lui être fidèle. C'est pas possible qu'il y ait des chrétiens qui s'ennuient à mourir. C'est impossible. Il m'a appelé à être fidèle et à démarrer quand il tourne la clé. Je l'ai dit le matin. Il y a quelque chose qui passionne l'âme dans le fait de servir le Seigneur et de lui être fidèle. Le psalmiste écrit, « Dans le livre de la loi, je trouve écrit ce que je dois faire. Mon Dieu, j'ai plaisir à t'obéir et je garde ta loi au fond de mon âme. » Nous avons maintenant besoin d'examiner nos cœurs en terminant. Pouvons-nous honnêtement dire que nous sommes fidèles au Seigneur, que nous cherchons à faire sa volonté et à participer à son œuvre ce matin? Est-ce qu'il y a de la place pour de l'amélioration? Sommes-nous prêts aujourd'hui à devenir un Daniel et à être fidèles au Seigneur jusqu'à la mort? Sommes-nous prêts à recevoir Jésus-Christ comme sauveur ce matin si nous ne sommes pas sauvés? Terminons ce message en considérant trois leçons pour les Daniels des temps modernes qui se trouvent chaque jour confrontés face aux lions de ce monde. Il est possible de vivre une vie pure au milieu d'un monde profondément païen. Ça, c'est la première leçon que Daniel nous enseigne ce matin. Arrêtons de dire qu'il est difficile de partager la parole. Ça a toujours été difficile. À des degrés plus ou moins différents, mais ça a toujours été difficile. Le diable ne cédera jamais un pouce de terrain. Pas un pouce, mais... Oui, c'est bon, Ernest, un pouce. Un centimètre de terrain, bon, voilà. Dieu peut nous utiliser pour toucher des gens que nous considérons comme étant des causes perdues lorsque nous sommes fidèles. Ça, c'est la deuxième chose que nous devons retenir à travers Daniel. Troisièmement, Dieu est capable de délivrer son peuple de tout danger auquel ils sont confrontés. Et frères et sœurs, si Dieu peut délivrer Daniel de la tanière au lion, il peut sûrement vous délivrer. Des générations de chrétiens se sont inspirées de cette histoire. Parce qu'à la fin, frères et sœurs, de cette histoire, le héros, c'est pas Daniel. Le héros, c'est le Dieu de Daniel. Ce même Dieu est souverain sur ceux qui complotent contre vous. Et il est souverain sur les lions qui vous entourent. Prenez courage et faites confiance à Dieu. Il peut vous délivrer de tout ce qui vous trouble en ce moment même. Avant de terminer cette histoire, je voudrais signaler l'évangile dans Daniel. Daniel 6. Daniel est une image du Seigneur Jésus-Christ, qui, même s'il était innocent, a été envié et condamné à mourir. Lui aussi a été laissé tomber dans une fosse de la mort et on a roulé une pierre devant l'entrée de sa fosse en plaçant un sceau officiel devant sa pierre. Tout comme Dieu a envoyé un ange à Daniel, il a également envoyé des anges au Seigneur Jésus-Christ pour dire « Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. » De cette fosse de mort est sorti le prince de la vie qui a vaincu la mort pour toujours. Il est le Dieu de Daniel, il s'appelle Jésus, il est notre sauveur et notre Seigneur. Ne craignez pas vos ennemis, ne craignez pas ce qu'ils peuvent vous faire. Rappelez-vous, frères et sœurs, ce matin, l'histoire de Daniel et priez pour avoir le même genre de foi que lui, car quelqu'un vous regarde, quelqu'un veille sur vous. Et c'est le Dieu qui a veillé et qui a protégé Daniel. Pensez à Daniel nous voyons en lui la bénédiction qu'il a reçue de la part de Dieu. Il a eu des ennuis à cause de sa foi, il a été délivré, mais il a été délivré à cause de sa foi. Que Dieu nous donne le même genre de fermeté absolue, afin que même nos ennemis sachent que nous croyons en Jésus-Christ. Amen.